RCF.
Dans la Bible, et en particulier dans le livre de l'Exode, il est question d'une terre où coule le lait et le miel. Une terre bénie, une terre d'abondance. Le lait et le miel véhiculent des images de douceur et de bienfaits qui, depuis des siècles, alimentent non seulement les hommes, mais aussi toutes les formes d'art. Le lait, en particulier, est très présent dans les œuvres picturales sur lesquelles vous avez travaillé pour retracer l'histoire de cette nourriture on ne peut plus naturelle et symbolique. Didier Nourisson, bonjour à vous.
Bonjour Véronique.
Alors, votre nom, Didier Nourisson, vous prédisposez peut-être à vous intéresser à l'histoire du lait ou à y consacrer le livre paru aux éditions Vendémiaire, Du lait et des hommes, histoire d'un breuvage nourricier de la Renaissance à nos jours. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine de l'université Claude Bernard, Lyon 1. Vous me pardonnerez cette petite familiarité concernant votre nom de famille, mais Didier Nourisson, comment est-ce qu'on en arrive à s'intéresser à l'histoire du lait ?
Alors, le côté blagounette me plaît assez, me va assez bien. On m'a déjà dit que mon nom était un pseudo. C'est vrai, mon nom pourrait être un pseudo, étant donné que, pour une fois, c'est un nourrisson qui parle du lait. Hein? Donc, effectivement, c'est un peu original, mais je n'y suis pas pour grand-chose.
Par contre, vous êtes pleinement responsable du livre qui paraît aux éditions Vendémiaire et qui retrace une histoire quand même très intéressante de ce breuvage.
Oui, voilà. Alors, tout le monde vit du lait, naît du lait. Hein, je connais personne qui ait dépassé l'âge d'un an sans boire du lait et qui va boire ou manger du lait, quelquefois, toute sa vie durant. Aujourd'hui, on mange du lait sous forme de fromage, de la sauce, du beurre.
Les produits laitiers sont partout.
Et les produits laitiers sont partout et à tous les âges, voilà.
Dans votre livre, vous commencez par l'Antiquité et vous rappelez que très tôt, on a eu des traces de femmes, souvent des déesses, qui allaitaient leurs fils, le signe d'une force et d'une puissance.
Et oui, c'est toujours par les gens d'en haut que l'on connaît en premier lieu les sociétés, et dans le cas des sociétés antiques tout particulièrement, avec les déesses qui vont allaiter à peu près dans toutes les civilisations, de l'Égypte, la Grèce et Rome. Tout cela baigne dans le lait. Par exemple, si on prend Isis, la grande déesse mère de l'époque pharaonique, Isis est mère et épouse d'Osiris. Après avoir recomposer le corps de son époux, qui avait été désossé aux enfers, elle réalise avec lui un enfant, elle fait Horus, et elle va l'allaiter. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que Isis est la mère des dieux et la mère des hommes, surtout. Hein. Nous avons affaire à une mère nourricière et qui nourrit tout un peuple, évidemment, le peuple égyptien de l'époque pharaonique.
Est-ce qu'il y a un lien entre cette déesse et la Vierge Marie qui est représentée allaitant l'enfant Jésus?
Le lien, il se fait très très bien par la civilisation gréco-romaine. Les Grecs se sont inspirés beaucoup de la religion égyptienne, où on retrouve des mythes semblables, et ensuite les Grecs, à leur tour, ont inspiré la civilisation latine. Et chaque fois, eh bien, on voit des déesses qui allaitent, et toujours les déesses mères, les déesses reines. Par exemple, dans la civilisation grecque, c'est Héra, épouse de Zeus, qui va allaiter le petit Héraclès. Alors, c'est très important parce que Héraclès va presser le sein d'Héra, et en pressant le sein d'Héra, des gouttelettes de lait vont jaillir et constituer ce que l'on va appeler la voie lactée. Thomas Pesquet connaît bien tout cela. Et cette mythologie se transmet chez les
chrétiens.
Romains, chez les
Romains d'abord,
sous forme de Junon, épouse de Jupiter, qui enfante Hercule et nourrit Hercule. Et la civilisation chrétienne va effectivement s'en inspirer et adopter donc le petit Jésus et le mettre au sein dès la Renaissance.
Sous quelle forme ? La peinture essentiellement ?
De peinture, c'est-à-dire le média de l'époque. Hein, le vitrail, la peinture, la sculpture sacrée, bien sûr, vont tout de suite s'emparer du thème de la Vierge allaitante.
«
La plus jolie fille du canton est une fermière qui, dit-on, répond au doux prénom de Lolo. C'est amusant de s'appeler Lolo, surtout quand on fait la profession de vendre du lait dans la région. Oh, si vous saviez comme il est bon le lait, de Lolo. Comme
c'est. Alors Didier Nourisson, on était assez loin là de la Vierge Marie et allaitante en écoutant cette chanson de Bourvil, Lolo, où il est question de lait. C'est intéressant parce qu'en cherchant un peu, on se rend compte que beaucoup de chansons ont été inspirées par cette thématique.
Le lait sacré est tombé dans le profane très vite, pour une bonne raison d'ailleurs, le Concile de Trente. Le Concile de Trente au XVIe siècle a interdit la nudité dans les représentations des grands artistes. Et du coup, ils vont inventer, en somme, à la place, le topos artistique de la mère et l'enfant.
Ceci dit, à la Renaissance, il y a quand même un certain nombre de représentations encore de la Vierge allaitante.
C'est à la Renaissance qu'on voit surtout les Vierges allaitantes, parce que pendant le Moyen-Âge, on voit surtout des Vierges très rigides qui présentent l'enfant au monde, mais qui laissent une impression plutôt d'effroi que de bonheur. Alors du coup, on a l'impression qu'au XVIe siècle, qui est le temps quand même des guerres religieuses, eh bien, on a l'impression qu'il a fallu construire une divinité beaucoup plus humaine. Humaniser la divinité va être une espèce de mot d'ordre dans les milieux catholiques, en premier lieu. Et du coup, effectivement, la Vierge sort son sein à partir du XIVe siècle en Italie, mais du XVIe en France, c'est-à-dire au moment des Renaissances. Et on va trouver des centaines de représentations de la Vierge allaitante à tout moment, c'est-à-dire pendant la fuite en Égypte ou à la crèche même, après la naissance, etc. Donc on va voir ces Vierges allaitantes très clairement et avec un petit Jésus heureux.
Joufflu,
avec des gestes rose. D'enfant, mais l'enfant Dieu s'est vraiment fait homme à ce moment-là.
Est-ce que ces représentations ont un impact sur le quotidien et la vie en société ?
Alors, les femmes allaitent depuis l'origine de l'homme, mais effectivement, à la Renaissance, cet allaitement va être un peu sanctifié,
valorisé
par la geste divine. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement important de valorisation de la mère qui peut donner son lait. Et tous les humanistes de la Renaissance, catholiques ou protestants, vont embrayer là-dessus. Pensons par exemple à Rabelais, médecin qui valorise beaucoup la consommation de lait.
Se pose également la question des situations où le lait manque, où on s'interroge sur l'aliment qui peut favoriser ou défavoriser la montée de lait, sur des pèlerinages qui prennent forme pour favoriser là encore soit la fertilité, soit la montée de lait.
Complètement. On voit par exemple en Bretagne, on voit des pèlerinages à Notre-Dame du Bon Lait, à Tréguron, et ces femmes donc accomplissent un rituel très précis, tournant autour d'une grotte sacrée, s'abreuvant à la fontaine et trempant même leur sein afin d'avoir du bon lait une fois mère. Et puis les médecins dont je parlais tout à l'heure, qui sont tous des humanistes, vont proposer des consommations favorables à la lactation, par exemple du fenouil ou diverses herbes permettant une bonne lactation. Ou inversement, déconseillant certaines plantes comme étant nocives pour le lait.
Ou donnant mauvais goût.
Par exemple, l'ail, déconseiller de manger de l'ail quand on est une mère allaitante parce que le lait a un mauvais goût. Tout cela fait vraiment de la matière, si j'ose dire, humaine, extrêmement intéressante pour faire croître l'enfant.
Didier Nourisson, vous accordez aussi un passage important à la question des nourrices. La nourrice, c'est celle à qui l'on confie le bébé pour, comme le nom l'indique, elle lui donne son lait.
Quand la mère manque de lait, ou quand la mère ne veut pas allaiter, ce qui peut arriver aussi, on confie l'enfant à une nourrice qui vient d'avoir un enfant et donc qui, en principe, a du lait. et du lait à vendre. C'est une nourrice mercenaire dont il est question. Ça, c'est une pratique très ancienne. On a des textes qui datent de l'époque romaine, par exemple. Mais au XVIe siècle, ça va se renouveler souvent. Et puis, on est à l'époque davantage d'écrits aussi. Donc, on a des contrats entre une patronne et une nourrice, où on définit les normes de la nourrice. Elle doit être jeune, elle doit être saine, y compris moralement d'ailleurs, hein, ne pas copuler avec un homme pendant tout l'allaitement.
Avoir bonne réputation.
Avoir bonne réputation, parce que ses vices pourraient se transmettre en quelque sorte au nourrisson. Donc on va avoir des injonctions même médicales réalisées par les humanistes pour choisir la bonne nourrice. Et on retrouve tout ça au temps de Rousseau, par exemple, au XVIIIe siècle, où il y a à nouveau une sélection des nourrices qui est réalisée de manière très précise.
À un moment donné, intervient ce que vous appelez une croisade contre ces nourrices mercenaires. On considère que ces transactions ne sont pas de très bon goût et on voit des mères, et notamment vous citez la reine Marie-Antoinette, vanter les bienfaits de l'allaitement. Elle dit elle-même qu'elle est heureuse d'allaiter sa petite fille.
Il y a tout un courant moraliste hein, qui vise à imposer aux mères d'allaiter elles-mêmes leur enfant parce que justement les nourrices mercenaires risquent de gâter un peu la morale de leurs nourrissons.
Un mot sur l'apparition du biberon.
Le biberon, c'est pareil, il n'a pas d'âge, sauf qu'il se renouvelle tout au long des siècles que je parcours. On a au XVIe siècle des biberons en bois, des biberons en corne, comme dans l'Antiquité. On va trouver aussi de plus en plus des biberons en terre, plus ou moins vernissé. On en trouve encore d'ailleurs dans ces céramiques en Bretagne, le principe même des cols de Quimper. Et puis au 19e siècle, on va avoir les premiers biberons en verre, en étain, et puis jusqu'à nos jours où on trouve maintenant uniquement des biberons en verre jugés plus propres.
Lait dit vache, Didier Nourisson. Et de vache, il en est question dans votre livre consacré donc à l'histoire du lait. Évidemment, on ne peut pas parler de lait, de vente de lait, de commerce du lait, de consommation de lait sans parler de vache. Ceci étant dit, posséder une vache, ça ne va pas de soi pendant de nombreux siècles parce que ça coûte cher. Avoir suffisamment à donner à manger à sa vache, ça coûte cher aussi. Enfin, expliquez-nous un peu pourquoi la vache n'est pas un animal qui, très couramment, fait partie des animaux domestiques.
Effectivement, il y a longtemps que la vache a été domestiquée, mais on en trouve très peu en troupeau, en gros troupeau, permettant de dégager des espèces d'excédents de lait, parce que la vache, elle va évidemment chercher à nourrir son veau, et elle produit peu, par manque de fourrage, par manque d'herbes bien comestibles. Du coup, les productions laitières sont faibles et le veau, qui est extrêmement gourmand, va consommer quasiment tout le lait de la vache. Hein. 2 traites par jour pour une vache donnait plus exactement au XVIe siècle entre 8 et 10 litres par jour. Pratiquement ce que consomme un veau. Donc il n'y avait pas vraiment d'excédent laitier. Et puis, autre raison qui explique la faible présence dans les fermes, c'est que la vache servait à autre chose qu'à donner son lait. Elle servait à la traction animale. Hein. Les bœufs, c'est encore plus rare. Donc, on avait des vaches et elles servaient également pour la peau ou pour la viande. On mangeait assez peu de viande. Donc, je répète, pendant le Moyen-Âge, on a des brebis, on a des chèvres que l'on fait éventuellement transhumer, mais on a assez peu de vaches.
Le lait des chèvres et des brebis est moins riche que celui des vaches ?
Alors, il est moins riche, mais...
Il est moins nourrissant ?
Il est moins... là aussi, il servait à nourrir les petits, mais quand ils étaient en gros troupeau, on pouvait dégager des excédents de lait et on fabriquait des fromages. Hein, puisque le gros problème du lait, c'est qu'il tourne très vite et il faut très vite le transformer. Donc, on fabriquait des fromages.
À la fin du Moyen-Âge, on fait quand même le choix d'agrandir les troupeaux de vaches et de renoncer à cultiver le plus souvent des céréales pour favoriser les prairies où les vaches pourraient brouter.
Disons que après le Moyen-Âge, à partir du XVIe siècle, donc la population s'agrandit, les seigneurs ont besoin d'argent pour vivre de plus en plus proche du roi à la cour, donc ils vont volontiers laisser pâturer en quelque sorte les troupeaux sur leurs terres, infertiles, infécondes, et notamment sur les terres d'altitude, ce qu'on appellera bientôt l'estive. Et on va voir des troupeaux dirigés par des communautés paysannes, puisqu'un seul paysan ne peut pas avoir de vaches en troupeau. Donc on constitue des troupeaux avec les communautés paysannes, gardées par un seul vacher, qui va fabriquer les fromages d'estive.
Est-ce que ça signifie que ces paysans, désormais, peuvent consommer plus de lait et de produits laitiers ?
Ben certainement.
L'excédent est plus important ?
Alors, il y a des excédents beaucoup plus importants. Je pense aussi à la Bretagne, la Normandie, où là, il n'y a pas de montagne, mais on a des landes qui ont été transformées en pâture pour les bêtes. Donc, on va pouvoir pareillement constituer des troupeaux grâce à cette espèce de révolution herbagère qui s'opère à ce moment-là. Et les excédents de lait vont soit être transformés en fromage. En Normandie, on connaît, par exemple, le camembert, hein. Dans les montagnes, donc, avec les excédents de lait, donc, fabriquer des fromages. Bon, en Auvergne, tous les fromages d'Auvergne. Et puis, on va aussi, avec le petit lait, c'est-à-dire ce qui est un résidu, en quelque sorte, de la fermentation, on va nourrir les vachers et les cochons.
Pour en revenir à la Bretagne et à la Normandie, pourquoi est-ce que ces deux régions particulièrement sont connues pour la qualité de leur lait et des produits dérivés, notamment le beurre en Bretagne ?
Ah ben, parce qu'ils sont connus pour la qualité de leurs herbages. Hein, on est dans
un
climat océanique, on a une terre qui se prête bien à la pousse de l'herbe.
Il fait rarement très froid.
Il fait rarement très froid, donc on va avoir une bonne herbe et du coup on va avoir des fourrages pour l'hiver, pour passer la mauvaise saison. Et du coup, on va se mettre à fabriquer en premier lieu de la crème, puis du beurre.
Qu'est-ce que c'est la crème ?
La crème, ben, c'est quand vous laissez du lait comme ça à l'air, il se forme un matelas de crème en surface.
Elle remonte à la surface ?
Elle remonte à la surface, voilà, et on la ramasse comme ça.
Et qu'est-ce qu'on en fait ?
On va s'en servir en cuisine, hein, par exemple, pour fabriquer les premières sauces.
Et le beurre ?
Et le beurre. Après, pour le fabriquer du beurre, il faut prendre de la crème et barater ce beurre pour lui enlever tous ses excédents d'eau.
À partir d'une situation géographique favorable, d'un climat favorable, le lait est de bonne qualité et donc les savoir-faire s'affinent, on découvre de nouvelles techniques et les produits issus du lait se diversifient.
Voilà, les produits issus du lait se diversifient et qui dit diversification et abondance, eh bien, dit commercialisation assez rapide. Hein. On voit se développer les marchés, les foires, et c'est toute l'histoire de Perrette et son pot au lait qui va chercher fortune sur le marché local.
Perrette sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courte vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile.
Cotillon simple
et souliers plats.
Cotillon simple
et souliers plats.
Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait.
On employait l'argent,
achetait un sans-dur,
faisait triple couvée.
La chose allait très bien par son soin diligent.
Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison.
Didier Nourisson, les frères Jacques qui interprètent cette fable bien connue de Perrette et son pot au lait. Encore une fois, une illustration très agréable de la façon dont le lait a inspiré les artistes. Pour en revenir au beurre qui nous occupait juste avant cette chanson, Didier Nourisson, ça devient un produit, dites-vous, symbole d'opulence, notamment en Bretagne.
D'où l'expression « faire son beurre ». Hein.
Ou mettre du beurre dans les épinards.
Ou mettre du beurre dans les épinards. Effectivement, il y a tout un langage là qui va naître avec ce nouveau beurre.
Mais alors comment est-ce qu'on conserve à la fois le lait et les produits laitiers qu'on fabrique à partir de ce lait? Parce que c'est ça la grande question, c'est conserver le lait qui tourne très vite.
Ça, c'est la grande question, effectivement. C'est pour ça aussi qu'on avait des fromages secs autrefois et qui se conservaient assez longtemps. Mais le lait tourne très vite, en quelques jours, parfois quelques heures. Et le seul moyen de conservation que l'on ait avant l'invention des glacières, c'est l'eau. On met les pots dans l'eau fraîche. Et ça se conserve un peu mieux.
Ça permet malgré tout de le conserver sur place, voire de l'emmener à la ville, par exemple.
Voilà, on prend le temps ainsi de l'emmener à la ville, hein, dans des jarres plus importantes. Mais il faut attendre vraiment le 19e siècle pour voir arriver les premiers frigorifiques, hein, wagons, navires ou glacières personnelles, quoi. Mais ça, c'est une opération de la Révolution industrielle.
Vous dites qu'en 1783, les Cris de Paris classent la laitière parmi les petits métiers de rue.
Alors, la laitière, c'est un personnage donc qui tourne autour des grandes villes et qui entre dans les grandes villes. Je m'explique. La laitière va chercher le lait chez le nourrisseur, en banlieue.
Qu'est-ce que vous appelez le nourrisseur?
Alors, le nourrisseur, c'est celui qui élève des vaches, des troupeaux de vaches, aux abords même des villes. Parfois, quelques dizaines de kilomètres quand même. Hein. Donc, la laitière, à 2h du matin, va chercher le lait des vaches du nourrisseur et emmène ce lait sur des charrettes, jusque au cœur des villes. Parfois même, elle emmène le troupeau de vaches jusqu'aux portes cochères des hôtels particuliers des villes. C'est pour ça qu'à Paris, on avait des embarras de Paris très importants. Boileau en sait quelque chose. Quand on voyait arriver les troupeaux de vaches, troupeaux de chèvres, troupeaux de brebis.
Dans Paris,
évidemment, aux grandes dames des riverains qui ne pouvaient plus circuler.
Mais qu'est-ce qu'elles en faisaient de ces vaches?
On les traillait sur place. Les servantes des grands hôtels particuliers venaient chercher le lait pour leur maîtresse et la maîtresse buvait le lait ou prenait un bain au lait pour améliorer leur peau. C'est l'origine des laits de beauté, en quelque sorte, que l'on peut connaître. Souvent aussi, la laitière emmenait seulement le lait dans des pots. Donc, elle avait trait les vaches avant de partir et elle se posait à l'angle d'une place de manière à débiter le lait auprès des passants.
Et c'est là qu'elle les cris, enfin les appels là de la laitière, comme on entendait les cris du verrier, retentissaient dans les villes.
Voilà, au bon lait, ici mon bon lait, vous voyez. Donc il y avait tout
un commerce comme ça.
Un commerce et un vacarme autour du lait.
La bourgeoisie, l'aristocratie aimait le lait, c'était un breuvage prisé dans la haute société.
Le lait, c'est la douceur. Et le lait n'a pas toujours été apprécié. Hein. Au Moyen-Âge, on boit très peu de lait dans le monde aristocratique, dans le monde des seigneurs. Mais on va se mettre, avec la Renaissance, à aimer davantage la douceur. On va découvrir le sucre aussi, les charmes du sucre, avec la constitution de l'Empire colonial. Donc, on va effectivement associer assez vite le lait, le sucre, le bonheur de vivre et le bonheur de recevoir aussi. Hein. Ce qui fait que même l'aristocratie va se mettre au lait assez bien et assez vite.
Et dans le monde paysan, on continue de consommer du lait autant que possible?
Bien sûr, parce que le lait est à portée de main, hein, c'est le cas de le dire. Hein. On va boire autant de lait qu'on boit de soupe, c'est-à-dire tout le temps. À chaque repas, c'est la soupe. Et souvent, la soupe arrosée de lait.
Mélangée.
Oui, mélangée. Quand on n'a pas de lait, on met du vin, remarquez.
Ça avait la réputation de donner de la force et d'être
lait,
nourrissant.
Le lait tient au corps. Hein. Voilà sa réputation. Le lait nourrit. Hein. Le vin, lui, donne de l'énergie.
Didier Nourisson, combien de temps, en moyenne, jusqu'à l'Ancien Régime, disons, les femmes allaitaient-elles leurs petits?
Une bonne année. Hein. Une bonne année parce que le bébé est exigeant, mais la mère est très donneuse. Donc, on parvenait comme ça à nourrir longtemps l'enfant et on estimait que c'était le meilleur moyen de le faire grandir. Alors après, arrivait le sevrage. quand les premières dents arrivent,
c'est,
eh bien,
le signe, hein,
c'est le moment de rentrer le sein. Hein. Du coup, effectivement, on va sevrer l'enfant. Alors, on va le sevrer avec des produits voisins du lait, un bouillon arrosé au lait.
Bouillie.
Une bouillie, tout simplement. Progressivement, on va apprendre à l'enfant à se détacher du lait maternel, y compris donc en lui donnant en l'accoutumant au lait de vache. Et plus l'enfant grandira, j'allais dire, plus le lait va devenir un produit plutôt solide que liquide. Et notamment, évidemment, avec l'apothéose du fromage.
Est-ce qu'il y a des représentations, notamment en peinture, qui montrent des scènes de la vie quotidienne de mères allaitant leurs enfants ou de nourrissons à qui l'on donne du lait ?
Ah oui, très souvent, on voit la pratique du petit pot, ce qu'on appelait le petit pot. Alors, c'est pas un yaourt, hein, bien entendu, hein, c'est un petit pot de terre cuite dans lequel on verse du lait et après, on lui donne à boire, y compris avec une cuillère, directement donc dans la bouche.
Si on en revient un peu au biberon qu'on a rapidement évoqué dans une précédente émission, avec des matériaux différents, hein, ça va de la porcelaine à la corne en passant par le bois, la question de la tétine, vous dites dans le livre que assez fréquemment c'est un bout de tissu qui est imbibé de lait que le bébé suce.
Alors les premières tétines, c'est des tétins. En fait, c'est les tétons des pies, ça s'appelle des tétins, et donc on a fait des tétines à la mort de la vache. Ça, c'est les premières tétines. Et puis ensuite, on va passer à d'autres objets, on va passer au linge que l'on fait tremper dans le lait et que l'enfant suce. Voilà, ça c'est assez répandu à cette époque. Ce n'est pas sans danger, hein, parce que l'enfant peut s'étouffer aussi avec le dit linge, mais...
Le caoutchouc, évidemment, c'est bien plus tardif. Hein.
Ah ben, le caoutchouc, c'est 19e siècle. Ouais. Hein. Il faut attendre d'avoir des EVA, de les planter en Malaisie, de les saigner, puis de transformer tout ça, l'EVA, en caoutchouc et en bonne tétine que l'on peut sucer, en priori, sans problème.
L'un des dérivés du lait, c'est évidemment le fromage qui fait la fierté des Français. On dit qu'il y a un fromage par jour au moins, peut-être même plus maintenant en France. Ces fromages, oui. C'est le produit qui provient du lait parce qu'il faut bien faire quelque chose de ce lait.
Ah, tout à fait. Donc c'est un produit de transformation durable, on va dire, du lait. Vous parliez de chiffres. Hein. Effectivement, on connaît la formule de Churchill à De Gaulle. Hein. Comment pouvez-vous diriger un pays qui possède 265 types de fromage ? Maintenant, on en serait à près de 1500 types de fromage. Hein.
Donc c'est l'industrie est passée par là quand même. Hein.
L'industrie est passée par là et c'est une fausse diversification en réalité, mais il y a une offre tout à fait majeure. Alors le fromage est en fait un fait ancien, aussi ancien que l'antiquité gallo-romaine, hein, par exemple, puisqu'on trouvait des fromages gaulois, dit-on, sur les marchés de Rome. Donc ça allait jusqu'au Forum. Et on pense que ce sont des fromages de la tribu des Arvernes. Donc des fromages d'Auvergne, ni plus ni moins.
La diversité des fromages en France, elle s'explique comment ?
Cette diversité, s'explique par la diversité française elle-même, diversité des paysages. On a des pays de plaine, des pays de montagne, on a des pays de moyenne montagne ou de plaine encaissée, etc. La qualité de l'herbage est différente, la qualité des bêtes aussi va être différente, puisqu'on va progressivement vers une spécialisation de fait avec les vaches de montagne, les vaches de plaine, c'est pas les mêmes, elles ont pas les mêmes qualité, bien sûr. Donc, ça va nous faire déjà des laits différents. Et en plus, il y a les pratiques qui vont être diversifiées. Par exemple, évidemment, en montagne, on va jouer sur l'altitude pour avoir les meilleurs herbages possibles. Et c'est ainsi que, à partir du XVIe siècle, se développent les estives, les alpages, où l'on va faire paître les bovins afin de fabriquer des fromages dont je peux parler longtemps, hein, comme le reblochon ou les fourmes d'Auvergne aussi. Hein.
Ce que vous vouliez dire, c'est que avant le XVIe siècle, on n'avait pas forcément l'habitude d'emmener les troupeaux en altitude.
Non, Non, la montagne faisait plutôt peur. Hein. On laissait plutôt les bêtes proches des habitations, parce qu'il y avait des loups hein, déjà. C'était pas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, c'était pas la peine de les emmener se faire bouffer à la montagne. Vous voyez la chaîne de Monsieur Seguin, ce qui lui est arrivé. C'est quand même un mauvais souvenir. Donc,
après, ça s'organise, quoi.
Les choses vont s'organiser. Les communautés paysannes vont louer des vachers pour faire l'alpage, comme ça, les mettre à l'alpage pendant 3 ou 4 mois, obtenir les meilleurs laitages et fabriquer les meilleurs fromages. Et on voit donc ces technologies, en quelque sorte, de fabrication qui se mettent en place tout en haut des montagnes. Et la meilleure preuve, c'est que l'encyclopédie, qui est férue de technicité, va expliquer cela très très bien, ces fermes d'altitude.
Lorsque j'habitais sur Rennes, à temps que je me souvienne, c'était il y a longtemps, j'avais au moins 10 ans. Maman, pour me changer d'air, me faisait monter à la ferme où les vaches vivaient bien sur le mont Valérien. Allant à la découverte, chaque jour que Dieu fait, on emportait une berthe, c'est ainsi qu'on l'appelait, oui, une berthe à lait. Et tous les gamins, gamines, maigrichons ou bonnes mines, tous habitants de la rue de Bellevue. Avant de manger la soupe, en route mauvaise troupe, faisaient têter leurs bidons comme des carillons. Et
sans penser. Certains de nos auditeurs, peut-être, Didier Nourisson, se rappellent être allés à la ferme chercher le lait dans ces fameuses berthes, ou au moins dans des pots à lait, ou dans des bouteilles
des
en
bidons,
verre,
ouais.
Des bidons de toutes sortes.
Ah bien sûr, il y avait une grande diversité d'objets qui allaient avec ces transports plus ou moins infantiles. Hein, effectivement, souvent c'est l'enfant qui était chargé d'aller chercher le lait à la ferme. Hein, et je pense évidemment à notre région. Nous, c'était les biches de lait. On appelait ça des biches de lait qui.
Quelle matière ?
En métallique.
En fer.
Dans les années 50, oui, en fer. Qui fermait assez hermétiquement pour éviter la casse et la chute.
Alors revenons à nos fromages, Didier Nourisson. Grande diversité en France, vous l'avez dit, due essentiellement à la diversité géographique, à la diversité des climats, à la diversité des terres. Alors vous rappelez par exemple, en quelques lignes dans votre livre, l'histoire du camembert.
Oui, alors l'histoire du camembert, oui, c'est une belle histoire de commercialisation réussie quand même, hein. Même si c'est largement recréé, on raconte, mais c'est donc à la joie du conte justement, on raconte que Marie Harel, du côté d'Isigny, dans le Bessin, avait été la première à fabriquer des camemberts, ce qui est très largement faux, mais c'est son gendre qui, une cinquantaine d'années plus tard, a commercialisé ses camemberts jusqu'à Paris. Et
Ils ont rencontré un franc succès.
Une France qui s'est retrouvée à Paris et qui avait besoin de retrouver aussi ses racines.
On est à quelle période là ?
On est au milieu du 19e siècle, sous le Second Empire, et on voit effectivement sur les étals parisiens, on lit très bien dans le ventre de Paris de Zola, tous ces fromages de France qui viennent magnifier en quelque sorte les habitants de la capitale. Hein. Et ça va des camemberts, effectivement, mais jusqu'aux fourmes, jusqu'aux fromages de montagne, pyrénéens, alpins et autres.
On est passé donc de fromages parfois très secs à des fromages à pâte molle.
On va produire toutes sortes de fromages.
Et là, il
n'y
a pas
temps,
de problème de conservation.
Ah non, il n'y a pas trop de problèmes de conservation, hein, parce que de toute façon, les fromages sont affinés pendant des mois. Hein, donc, ils ne se dégradent pas, bien au contraire, ils se bonifient de par leur affinage. Hein. Un fromage de 3 mois d'affinage est meilleur qu'un fromage de 2 mois seulement. Donc, les fromages non seulement se dégradent pas, mais se bonifient quand ils sont dans de bonnes conditions de conservation, évidemment, dans caves spéciales. Voilà, donc les urbains, les citadins vont profiter de toute cette gamme de fromages qui s'expose à leurs yeux, à l'odeur, à leur nez aussi, hein, souvent, puisque ça peut être des fromages très odorants qui ne sont pas toujours des fromages bleus, mais qui peuvent être des fromages blancs. Je pense au maroilles du Nord, qui est un fromage très fort, mais très savoureux.
toute une économie se développe aussi autour de ce genre de produits.
Ah oui, alors une économie se développe avec les premières fromageries hein, qui apparaissent dès la fin du XVIIIe siècle, hein, de manière pré-industriels, on va dire, et qui envoient leur fromage jusque dans les grandes villes. Hein. On a des fromageries célèbres, hein, bien entendu, Nestlé en Suisse, à Vevey. On a des fromageries célèbres comme Gervais aussi, dans le pays de Bray, en Normandie. Gervais qui va inventer le fromage blanc, le Petit Gervais, que l'on appellera bientôt Petit Suisse, justement parce qu'il a copié ce qui se faisait en Suisse au même moment.
Qu'est-ce qu'on peut dire des yaourts ?
Alors les yaourts, c'est beaucoup plus récent. Hein. Le yaourt, c'est à la fois plus récent et plus ancien. C'est-à-dire que on avait déjà des laits fermentés dans l'Antiquité, hein, la plus haute Antiquité même, hein, dans les tribus nomades. Mais les premiers yaourts, on va dire industriels, c'est le début du XXe siècle, avec un garçon dont le prénom était Danone, à Barcelone. Danone, ça veut dire en catalan Daniel. Et quand il est allé à Paris, eh bien, il a fondé la société Danone, tout simplement, dont la France est très fière désormais.
Alors, il est difficile, Didier Nourisson, d'avoir une idée exacte de la consommation de lait et de produits laitiers jusqu'à la révolution industrielle. Vous dites dans votre livre qu'on n'a pas de statistiques. Par contre, à partir du 19e siècle, on commence à pouvoir estimer de manière assez précise cette consommation. Pour quelles raisons ?
Oh, c'est toujours pour des raisons fiscales, hein, parce qu'il y a déjà des impôts à la consommation qui sont réalisés dès le 19e siècle, notamment les octrois, hein, qui taxent tous les produits laitiers, et les produits laitiers, ben, ils viennent de la campagne, donc ils vont vers les villes, et donc, et paf, ils sont taxés.
À l'entrée des villes.
À l'entrée des villes.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chiffres?
Ben, que les consommations vont être multipliées entre 1850 et 1900, on va dire, par 5.
En 50 ans.
Oui, voilà, on va passer de 40 kilos de lait tout type confondu par an et par personne à 90 voire 100 kilos par personne toujours à la belle époque.
Pourquoi cette augmentation de la consommation ?
Eh bien, parce que la révolution industrielle creuse les fins, en même temps qu'elle accentue les inégalités sociales, et les produits lactés vont être des bons coupe-faim. Hein. Donc, on va se mettre à consommer de plus en plus. Les premières monographies sociales qui apparaissent à cette époque, au 19e siècle, là, montrent bien que les gens du peuple consomment beaucoup de lait dès lors qu'ils sont pauvres. Et plus on monte dans la hiérarchie sociale, moins on boit massivement, on va dire, du lait.
Parce que le lait et ses produits dérivés coûtent peu cher.
Alors, le lait coûte peu cher, oui. Effectivement, le vin aussi, vous allez me dire, coûte de moins en moins cher à la même époque. Hein, le pouvoir d'achat alcoolique comme le pouvoir d'achat laitier augmente sensiblement. Et puis, quand on a peu de viande à consommer, eh bien, on est content de retrouver tous les produits. On n'a pas encore fait la distinction lipide, protide, glucide, mais
on va se rendre compte
rapidement que le lait contient tout cela. Hein. C'est un aliment complet.
Il est complet, abordable sur le plan financier, et la révolution industrielle contribue à le diffuser sous des formes de plus en plus variées et facilement accessibles.
Absolument. La révolution industrielle donc est d'abord une révolution technologique. On va inventer des nouveaux types de lait. On avait le lait liquide, classique, pur. On va avoir du lait bientôt en poudre, du lait concentré, donc qui suppose des techniques industrielles particulières, mais qui permettent une accessibilité beaucoup plus grande. Avec du lait en poudre, ben, un peu d'eau et hop, vous avez votre verre de lait facile. Et puis, ce sont des laits qui se conservent très très bien.
C'est ça, la conservation pose plus de problèmes là.
On était obsédé un peu par l'insuffisance de la conservation. Et puis, arrive avec la révolution industrielle, d'ailleurs, la microbiologie, hein, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte de la composition des laits, on va se rendre compte qu'il y a des laits qui sont gâtés, pollués, qui nécessitent des purifications. C'est l'invention de la pasteurisation qui va permettre de mettre sur le marché, en principe, des laits beaucoup plus sains.
En quoi est-ce que ça consiste, cette pasteurisation ?
Oh ben, vous chauffez pendant quelques dizaines de secondes du lait à haute température et vous avez pasteurisé votre lait. C'est ce qu'on appelle aussi faire bouillir le lait, hein, tout simplement. C'est très important et c'est décisif. Mais pour faire bouillir, c'est toujours pareil, il faut avoir une source d'énergie importante. Donc la révolution industrielle met aussi sur le marché des réserves énergétiques. De même, pour conserver le lait, il faut avoir de la glace, donc la fabriquer, cette glace. Et on inventera, dès la fin du 19e siècle, le réfrigérateur, qui ne verra vraiment son développement qu'après 1950 dans le grand public. Mais enfin, quand même, on voit cette révolution industrielle qui va permettre une massification des productions et des ventes.
Pour en revenir à la conservation, le principe de l'ultra haute température, UHT, c'est un autre nom de la pasteurisation ?
Oui, c'est une forme suprême, on va dire, de pasteurisation, hein, puisque là, c'est ultra haute température, alors de l'ordre de 110 degrés, alors que la pasteurisation ordinaire, c'était à 50 degrés, en gros, ou 60 degrés. Donc, on a une exagération de la diffusion thermique, et on va avoir des laits à très haute température, mais pas avant 1973. Hein.
Ça, c'est plus tardif. Donc,
c'est
et puis,
beaucoup plus tardif.
La manière dont on le stocke et dont on le vend avec les briques, les fameuses briques.
Voilà, les tétrabriques. Oui. C'est le nom d'une entreprise suédoise, Tétrabrique, et qui a bien marché. Et avec la création aussi des grandes surfaces, hein, qui vont transporter ces packs de lait et les mettre sur les gondoles de vente de manière très accessible et très facile pour les consommateurs qui n'auront plus qu'à charger leur caddie avec des petites briques rectangulaires, au point d'ailleurs que les enfants parfois croient que le lait pousse en briques et non pas au pied de la vache.
Cette révolution industrielle touche la fabrication du lait, tous les produits qu'on peut en faire. Est-ce qu'elle a aussi quelque chose à voir avec la publicité qui est faite autour de la consommation du lait ?
Alors, toutes ces grandes entreprises qui se constituent, depuis Nestlé dès les années 1850 jusqu'à Lactalis dans les années 1950, engagent des processus publicitaires formidables, hein, embauchant d'ailleurs les meilleurs artistes pour faire valoir leur production.
Par exemple
Mucha, au temps de l'Art Nouveau, hein, à la fin du 19e siècle, ou Courbon dans les années 1950, et bien d'autres affichistes. Elles vont faire même mieux que cela, puisqu'elles vont faire passer le lait à l'écran du cinéma, à l'écran de la télévision, sous forme de bientôt de spots publicitaires.
Pour vanter
les mérites du lait et l'excellence de leur production.
L'une on vend de l'eau, dans l'autre on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde en revanche, où l'on vend du lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant: à qui les beaux le débit de lait, à qui les lait le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau si lait. Si lait un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau bobby. Au débit de lait, il y a la belle babée. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le bobby et la babée sont ennemis, car les badauds sont emballés par les bidons de lait de babée. Mais on maudit le lent débit des longs bidons du débit d'eau de bobby. Aussi babée, ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de bobby. Et bobby lui répond en vidant les bidons d'eau sont des vies, allez dans. Oh, les bidons d'eau sont des vies, allez dans.
Incontournable, Didier Nourisson, quand on parle du lait, cette chanson de Charles Trenet, le débit de l'eau et le débit de lait.
Alors oui, tout simplement parce que le débit, en général, se diffuse de manière considérable. Alors, on avait les débits de vin au 19e siècle, on va avoir les débits de lait début du 20e siècle, jusqu'à ce que le lait soit davantage diffusé dans les grandes surfaces dont on parlait à l'instant. Mais effectivement, débit de l'eau, débit de lait, c'est une espèce de rapport à la proximité qui est très intéressant pour notre époque aussi.
Est-ce que, justement, on peut faire un lien entre le lait et la politique hygiéniste au XIXe siècle. Est-ce que les politiques s'emparent de la symbolique du lait pour encourager sa consommation ?
Ah oui, alors c'est très intéressant de voir comment la publicité commerciale des entreprises va se développer en même temps, comme par hasard, avec la propagande d'État en faveur du lait. Je faisais une allusion à l'instant, par exemple, aux publicités Nestlé des années 1950, tous azimuts, images et sons. Mais au même moment, dans les années 1950, l'État français développe une politique du lait avec toujours le même argument, d'ailleurs les uns et les autres, les commerciaux comme les gens de l'État, le même argument hygiéniste.
C'est-à-dire
le lait, c'est la santé. La santé, c'est le lait. L'ennemi, c'est le vin, c'est l'alcool. Et les commerciaux vont évidemment insister sur la santé, c'est mon lait, c'est-à-dire le lait de l'entreprise.
Alors quand vous dites l'ennemi, c'est l'alcool ou le vin, sa consommation était importante et très répandue ?
Ah bah bien sûr, on était arrivé avant la guerre à quasiment 200 litres de vin par personne et par an.
Assez tôt quand même, hein, je crois.
Disons à partir de 15 ans, hein, les statistiques portent sur les populations de plus de 15 ans, donc 200 litres par an, c'est énorme. Et après la guerre, les gouvernements inquiets pour la santé publique et les ravages de l'alcoolisme, comme on disait alors, vont essayer d'avoir une politique anti-alcoolique. Et en particulier, évidemment, le président du Conseil, Pierre Mendès France, va immédiatement encourager la consommation de lait et décourager celle de vin. Je me permettrai de vous lire à ce propos un discours qu'il a fait en novembre 1954 pour annoncer que cette consommation de lait allait atteindre les écoles à partir du 1er janvier de l'année suivante, c'est-à-dire 1955. Et voilà ce qu'il dit, et on voit bien que Pierre Mendès France est à la fois un hygiéniste convaincu, mais aussi une forme de lobbyiste du lait tout à fait convaincant. À partir du 1er janvier prochain, dit-il, entrera en application un plan de distribution de lait sucré dans les écoles publiques et privées. Ces distributions seront salutaires pour la santé de nos enfants. Elles aideront à écouler une partie de notre production laitière et sucrière. Et elles prépareront une modification progressive des habitudes des consommateurs dans notre pays où les aliments riches et énergétiques comme le lait et le sucre ne sont pas consommés autant que le voudrait la santé et la vigueur de la race, c'est comme ça qu'il parle, alors que dans d'autres pays voisins et semblables aux nôtres, ces aliments contribuent plus largement à la ration moyenne de la population. Le progrès social est là aussi. Nous sommes en 1954 et effectivement, nous verrons arriver dans les écoles publiques et privées du lait sucré.
Sucré.
Oui, on va le sucrer parce qu'on a un excédent de sucre considérable, betterave à sucre, et on va le voir arriver dans les écoles, à la récré, comme on disait, de 10h et à celle de 16h qui vont, en principe, remettre de la vigueur à la jeunesse française qui en avait pas mal perdu pendant la guerre.
Le lait, Didier Nourisson, symbole d'une nourriture saine, d'une nourriture qui donne de la force, qui fait grandir. C'est aussi dû à sa couleur blanche.
Durant tout le livre, on voit effectivement cette blancheur du lait qui frappe parfois les imaginations et qui les frapperont d'autant plus que face au lait se trouvera le gros rouge. Hein, face au petit blanc, en somme, se trouvera le gros rouge et dans un enjeu de santé tout à fait important puisqu'on a pu évoquer le combat entre l'alcoolisation d'une part et la consommation de lait d'autre part.
Vous aviez évoqué des bains que prenaient certaines aristocrates, des bains de lait. Aujourd'hui encore, le marketing surfe sur la blancheur du lait, les bienfaits du lait pour les produits de beauté et ses dérivés.
Oui, alors le blanc dans notre civilisation occidentale, en tous les cas, est symbole de pureté, de beauté, presque de sérénité. Hein. Ce ne serait pas vrai forcément en Asie, mais où on boit beaucoup moins de lait d'ailleurs, en Chine et au Japon. Donc ça ne marche pas toujours.
En tout cas, chez nous, la symbolique est forte.
Chez nous, la symbolique est très forte et on y tient, on s'y maintient et on surfe dessus, et y compris bien sûr le lobby du lait.
Toutes les crèmes hydratantes surfent sur le lait hydratant, quoi. Et en général, sont blanches et synonymes de pureté. Est-ce qu'aujourd'hui, on consomme moins de lait qu'il y a une cinquantaine d'années, Didier Nourisson? Est-ce que la consommation de lait a baissé?
Alors, pour enchaîner quand même sur ce qu'on vient de dire, les laits dont on parle peuvent être des laits végétaux. Hein.
J'allais y venir.
On a développé beaucoup de laits végétaux à base de soja ou d'autres plantes. Lait d'amande également, très, très important auprès des belles. Donc, le lait continue sa diversification, indiscutablement. Et on assiste à une consommation qui se transforme, mais sur le plan quantitatif, une consommation qui augmente toujours.
Mais moins de lait de vache.
Simplement, voilà, on boit bien moins de lait de vache, et de chèvre, n'en parlons pas parce que c'est anecdotique, et de brebis également. Mais on a de plus en plus, comme on a de plus en plus de produits lactés, et transformé souvent par la grande industrie qui va promouvoir évidemment c'est son rôle, ces produits-là, eh bien on va assister bel et bien à une consommation qui n'est pas une surconsommation, mais qui augmente d'année en année.
Alors j'en reviens quand même au lait de vache, qui lui est en perte de vitesse, un peu comme le pain, on dirait. On mange beaucoup moins de pain. Le pain qui a été pendant des siècles l'aliment de base, aujourd'hui ce sont des produits dont on se détourne un peu.
Je pense qu'on est dans une société de plus en plus exigeante et qui cherche la sophistication de tous ces produits. Hein. Ça se voit très bien aussi avec le vin, hein. Plus de gros rouges qui tâchent, mais des vins fins, soigneusement marchandés, marketés.
Oui.
Marketés, hein. Voilà. Et pour le lait, c'est exactement pareil. Et les laits, donc, qui deviennent de plus en plus raffinés, des fromages qui, de mieux en mieux emballés, qui peut-être espèrent du coup en être emballants eux-mêmes.
Par exemple, le lait entier n'est quasiment plus consommé aujourd'hui.
Ah non, il faut qu'il soit écrémé, demi-écrémé. Et quand il est liquide, c'est encore relativement simple. Mais quand il est transformé en solide, vous voyez tout de suite ce qu'on peut en faire. On va y ajouter des arômes. On va vraiment le transformer de mille manières.
Pourquoi est-ce qu'on ne consomme plus de lait entier, d'après vous?
Eh bien, parce que il y a eu aussi une remise en cause des conclusions médicales des années 50-60 sur la bonne nutrition au lait. Hein. On s'est aperçu que le lait pouvait provoquer des allergies dès lors qu'il était avec sa matière grasse.
Donc ça, c'était des questions qu'on ne se posait pas avant, ou bien ça n'existait pas avant les années 50?
Ça existait certainement, mais on ne se les posait pas. Hein. Les problèmes ne semblaient pas venir de là.
L'intolérance au lactose ou...
Non, ça, certainement on ne se posait pas ces questions-là. Mais bien sûr, le lactose était déjà là et son intolérance aussi, bien entendu.
Petit lait sucré, que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un petit lait sucré, c'est bon au petit déjeuner. Un petit lait chocolat, que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un petit lait chocolat, c'est bon pour qui en aura. Petit lait vanille, que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un petit lait vanille, c'est bon pour les petites filles. Un petit lait caramel, que c'est bon.
Voilà l'illustration de tous les arômes dont on peut parfumer le lait, Didier Nourisson. Pour beaucoup d'entre nous, le chocolat au lait, c'est quand même une Madeleine de Proust.
Oui, puis je voulais ajouter que ces transformations qu'on fait subir au lait peuvent provoquer des catastrophes de santé aussi, hein. On en a des exemples récents pour ne pas faire enfler encore la polémique, mais je reviendrai sur une pratique qui était très généralisée au début du XXe siècle seulement, il y a une centaine d'années, c'était le lait frelaté. On y ajoutait alors tout simplement de l'eau. C'était très grave parce que ça aboutissait à introduire un liquide dangereux pour la santé, parce que l'eau n'était évidemment pas potable, et du coup ça entraînait des maladies comme la typhoïde et des choses comme ça, véhiculées en quelque sorte par le lait. Donc c'était ce qu'on appelait des laits frelatés qui ont entraîné une mortalité infantile très importante, un peu comme en Chine dernièrement, il y a eu un scandale du lait justement parce que le lait avait été transformé de manière nocive. Voilà. Alors je pense qu'il faut effectivement se rendre compte que cette industrialisation tous azimuts pour une commercialisation massive, eh bien peut aboutir à des problèmes de santé majeurs et pour la société.
Qu'en est-il de l'allaitement maternel aujourd'hui ? C'est devenu presque un sujet tabou.
Oui, c'est quasiment un choix de vie, hein. Bon, ben, on est à une époque où, effectivement, mon corps m'appartient. Et quand je suis une femme, ça veut dire que je ne donne pas nécessairement mon sein, même à mon enfant, si je ne le veux pas. Alors, c'est un double danger. Et dans ce cas-là, c'est qu'on favorise l'industrie du lait maternisé, hein, donc le grand capital, en somme. Où on encourage effectivement la femme à retourner au gynécée, à la maison, hein, pour pouvoir allaiter. Donc le problème est grave, en somme, et récidivant. Donc on a toute une frange de féministes qui sont contre l'allaitement maternel, hein. Je pense par exemple à Elisabeth Badinter, là, qui emmène un peu toute cette famille de féministes, et qui va pourfendre un peu cet allaitement qu'elle juge contre nature.
En même temps, enfin, ça peut être un choix, l'allaitement maternel. Rien n'est obligatoire, puisque des alternatives sont possibles.
Rien n'est obligatoire, simplement, bon, quelquefois, il faut choisir entre la santé de son enfant et le confort de sa mère. Et c'est un peu le problème de notre société, effectivement. Qu'est-ce qu'on choisit, le confort ou la santé, enfin.
Est-ce que ça relève de la politique, d'une politique de santé publique, par exemple, ce genre de questions? Ou bien c'est bien au-delà et c'est une question transversale, la place de la femme dans la société
Alors, ben oui, mais ça relève forcément de la politique à un moment ou à un autre, hein. C'est pas par hasard que dans les maternités, il y a deux circulations. Il y a la circulation des informations favorables au lait maternisé et puis il y a les informations favorables à l'allaitement par la mère. C'est pas forcément contradictoire parce que, comme on l'a dit, il y a des femmes, des mères qui ne peuvent pas allaiter pour des raisons naturelles. Donc, il faut bien trouver un élément de compensation. Mais c'est aussi un problème quand même de société. Aujourd'hui, il faut savoir que 2/3 des femmes, des mères en France allaitent. Ça peut être 95% dans les pays scandinaves qui font, paraît-il, modèle, mais pas vrai pour la France. Donc seulement 2/3.
Ce qui est déjà pas mal quand même, 2/3.
Ce qui est plus que ce n'était dans les années 1950. Hein, c'est
dans les années 50.
Dans les années 1950.
Et la chute, c'est pas des années 70.
C'était à peine 50%. Oui. Non, c'était. Ça n'a jamais atteint 70%.
Hein. Non, je veux dire, les années 70, après mai 68, c'est pas là que vraiment la courbe s'est inversée et que l'allaitement maternel a baissé
Pas immédiatement. Pas immédiatement.
C'était déjà vrai dans les années 50.
Oui, c'était déjà vrai dans les années 50. Et puis, il faut attendre en quelque sorte les années 2000 pour voir arriver cette un peu défiance à l'égard du lait maternel et de cette pratique plutôt de l'allaitement maternel, hein, par, comme je le disais, des militantes, hein, de la cause des femmes.
Un très grand merci, Didier Nourisson, de nous avoir donc accompagné dans cette découverte de l'histoire du lait. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions Vendémiaire qui s'intitule « Du lait et des hommes, histoire d'un breuvage nourricier de la Renaissance à nos jours ». Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard Lyon 1. Encore merci à vous.
Au revoir et merci.
Merci et merci à Emmanuel Bouissière qui a assuré la technique de cette émission.